une joie de vous accueillir un peu après cette semaine de rentrée qui a peut-être été un peu compliquée pour certains. Il fallait reprendre un rythme. Eh ben, on est réjouis de pouvoir vivre ce temps de célébration ensemble. Ce matin, j'aimerais commencer une nouvelle série de prédications que j'ai intitulée « Équilibre ». Équilibre pour une vie qui atteint sa cible. Et j'aimerais ce matin commencer par deux métaphores. Première métaphore que j'aimerais vous partager, c'est celle de la flèche. Une flèche. Voilà. J'en ai une belle ici. Pour vous la montrer, elle est belle, hein ? C'est ma femme qui a travaillé fort pour moi. Moi, je ne suis pas très bon au bricolage, donc... Chacun ses dons. Voilà, donc elle m'a fait une belle flèche. Et puis j'ai mis sur ce petit papier un verset d'Ésaïe qui dit au verset 2, « Il a fait de moi une flèche aiguisée. » C'est au début du chapitre 49, on appelle ça c'est le chant du serviteur. C'est même le deuxième chant du serviteur. C'est un chapitre qui fait écho au chapitre 42. Et puis bien sûr, ce serviteur, c'est le Messie. Et il est dit qu'il fait de moi, donc l'Éternel fait du Messie, hein, donc c'était prophétique, une flèche aiguisée. On sait que Jésus, c'est notre modèle, n'est-ce pas? On désire suivre Jésus, et par son esprit, Dieu désire nous rendre semblables à Christ. Donc il désire aussi faire de nous des flèches aiguisées. Amen? Bon, tu peux dire à ton voisin, il fait de moi une flèche aiguisée. Alléluia! L'image de la flèche, elle me parle. J'aurais pu mettre le verset. Elle me parle beaucoup. Bon, il y a aussi un fameux verset qu'on me sort souvent. Vous le connaissez aussi peut-être, le psaume 127,4, qui dit les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont pareils à des flèches dans la main d'un guerrier. Voilà. Alors moi, qui ai quatre fils, c'est vrai que j'ai quelques flèches. Et puis, plutôt que de prendre ça, j'aurais pu prendre un de mes fils. Mais ça aurait été plus compliqué à tenir. OK. Mais ce n'est pas seulement la seule raison pourquoi la flèche me parle. Parce que la flèche, elle a une destination. Elle a une cible à atteindre. Et c'est tellement vrai pour nous. Nous avons été créés pour un but. Dieu a le désir que notre vie atteigne sa cible. Qu'elle porte du fruit. Alors il y a la cible de l'éternité, bien sûr, du salut, mais je crois qu'en fait, dans chaque journée, on a un but, il y a une cible à atteindre, un objectif. Puis ça peut être un objectif tout petit, tout simple, pas besoin de là où je vous ai dit, oh, quelle pression il va nous mettre encore, oh là là. Il va atteindre un objectif chaque jour, une cible à atteindre. Non, ça peut être des choses simples, simplement avoir cette parole bénissante que Dieu nous met à cœur pour quelqu'un, oser se laisser détourner pour un rendez-vous impromptu avec une personne que vous croisez à la Migros. Ça peut être simplement un encouragement, un service rendu. Peut-être que la cible de la journée, ça va être de prendre du temps avec votre famille. Ça va être de vous mettre à genoux, de vous asseoir avec vos enfants, puis faire un jeu. Pourquoi pas? Peut-être c'est ça la cible de la journée. Mais l'idée est simplement de dire, qu'attends-tu de moi aujourd'hui? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Quelle est la cible? Est-ce qu'on atteint toujours la cible que Dieu a pour nous? Oui, non? Il y a des gens hyper optimistes. Oui, bien sûr. Non, non. Non, on n'atteint pas toujours la cible, bien sûr que non. Mais je suis persuadé que pour l'atteindre, on a besoin d'une chose. Pour atteindre les buts qui sont ceux de Dieu, pour atteindre la cible que Dieu a pour nous, nous avons besoin d'équilibre. D'ailleurs, hein, une flèche qui n'est pas équilibrée, c'est compliqué en fait. Hein, on n'a pas l'impression, on dit quelle est la notion d'équilibre dans la flèche, hein, mais si c'est trop lourd là, elle ne va pas aller loin. Hein, puis si c'est, puis à l'inverse, ça n'ira pas non plus. Donc en fait, il faut de l'équilibre dans cette flèche. Alors, vous le savez aussi peut-être que manquer la cible, c'est ce qu'on appelle péché. C'est la définition même du péché en fait, c'est manquer la cible. Intéressant, hein, quand même. Et puis, en fait, ce qui est dommage dans tout ça, c'est que c'est non seulement le péché qui est dommageable, bien sûr, mais c'est la réalité que le péché, par le péché, nous n'atteignons pas la cible. Et parfois, on met le focus sur le péché. Alors bien sûr, on va pas aimer le péché. On devrait le détester, ce péché-là. Mais on oublie parfois de regarder plus loin. C'est pas seulement le péché le problème. Le problème, c'est que je loupe la cible. Je loupe l'objectif, le but pour lequel Dieu m'a destiné, pour lequel Dieu m'a appelé, pour lequel Dieu m'a créé. On passe à côté. Deuxième métaphore, c'est un petit peu de physique ce matin. Si on parle d'équilibre, vous avez besoin de comprendre une première notion fondamentale. C'est la notion de centre de gravité. Voilà. Centre de gravité, un peu de physique, ça va ? Alors, si vous regardez cette table, le centre de gravité, il est là. Okay, je n'ai pas fait de grands calculs, hein, j'ai été un petit peu à l'aveuglette, mais il est à peu près là. Et puis, en fait, ce qu'on réalise, c'est que dès que le centre de gravité va quitter cet espace délimité par les trois pieds, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la table va basculer. D'accord ? Donc, vous voyez, tant que le centre de gravité est là, la table va retomber sur ses pieds. Hein, mais si ça sort de l'espace, elle va basculer. OK ? Ça va pour les notions de physique ? Bon. Merci. Bon. Alors, la métaphore est la suivante. Jésus en nous, dans notre cœur, assure notre équilibre. Il est comme notre centre de gravité. À la mesure où il n'est plus au centre, eh ben, un déséquilibre va s'installer. Puis ce déséquilibre, il va nous faire soit tomber, soit nous dévier suffisamment pour manquer notre cible. Donc Jésus doit être au centre de notre vie, de toute notre vie, de tous les domaines de nos vies. Puis l'enjeu, il est vraiment là. Il peut être au centre de 80%, 80% pour les Français, des domaines de ta vie, mais les 20% restants vont suffire à déséquilibrer ta flèche. Peut-être que, comme beaucoup d'hommes ici, et certainement quelques femmes, peut-être qu'il y en a une ou deux, qui ont fait l'armée, moi j'ai fait du tir militaire, hein, mon service militaire, le tir, ce n'était pas vraiment ma tasse de thé. Alors, c'était pas, on a passé quand même au fusil d'assaut, hein, aux Suisses, on a les arcs, on a laissé tomber, hein, on a quand même des fusils de pointe, on est bon dans l'armement. Mais en fait, j'étais surpris d'un truc, c'est qu'un tout petit décalage au départ du tir amène sur la cible, à 300 mètres plus loin, un grand écart. Donc il ne suffit pas de grand-chose en fait. Un petit déséquilibre ne va peut-être pas toujours nous faire manquer la cible, mais en tout cas on ne va pas être au centre de la cible. Et puis parfois, on se concentre, on s'implique, ça m'est arrivé, et on se trompe de cible. Ça c'est la pire des choses, c'est vraiment la honte. Hein, parce qu'on a les petits ordinateurs qui nous montrent quand on a touché la cible, hein, puis d'un coup tu tires, tu étais bien concentré et tout, puis tu vois le truc de ton voisin qui fait bip, bip, bip. « Oh non, mais j'ai trompé de cible !» C'est un peu frustrant, pour vous dire que je n'étais pas un grand tireur. Mais voilà. Mais pour dire que dans nos journées aussi, il arrive qu'on se trompe de cible. Hein, ça peut aussi arriver. Bon, la notion d'équilibre dont je veux parler, donc c'est pas un système de compensation. Par exemple, je sais que ce que je fais là, ce n'est pas OK, mais pour équilibrer, ben, je vais être hyper généreux. Puis on va faire la moyenne de tout ça. Hein. En fait, la flèche de votre vie, ben, à un moment donné, enfin, je veux dire, elle est lancée, d'accord ? Puis on n'est pas fragmenté. C'est vrai, on peut chaque journée, moi je crois qu'on peut remettre Jésus au centre, on peut, par sa grâce, corriger la trajectoire de la flèche que nous sommes, mais on n'est pas fragmenté. Si je choisis dans un domaine de ma vie de mettre Dieu de côté, ben, toute la flèche va être déséquilibrée. Même si tout le reste est OK. Si c'est une petite partie, ben ça déséquilibre quand même le tout. Il y a un verset qui me semble aussi faire appel à l'équilibre. Un verset que j'aimais beaucoup citer quand j'étais jeune. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je le citais à mes parents. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Bon. Ce verset, il n'est pas en train de dire « fais ce que tu veux ». Puis il ne dit pas non plus « pêche, mais avec modération ». D'accord ? C'est pas ça qu'il est en train de dire. Des fois, c'est comme ça que je le comprenais un petit peu. Bon, il faut un petit peu, ça va. Mais... Non. Là, c'est une question de cœur. lorsque Jésus est au centre, tu vas marcher avec équilibre. Et tu peux saisir qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas bonnes, en fait, pour toi. Et que ces choses vont te détourner, vont te déséquilibrer et te faire manquer la cible. Donc, le texte, en plus, ici, il parle principalement de l'immoralité sexuelle. Oui, on parle aussi de la sexualité, des fois, dans l'Église. Soyez pas choqués. L'immoralité sexuelle, ça va te déséquilibrer. Lorsque Jésus n'est plus au centre, tu vas être dominé, dirigé, asservi par quelqu'un d'autre qui va te faire tomber. Mais la sexualité, elle est bonne. Vous êtes d'accord? Est-ce que je peux redire amen? Bon. La sexualité, elle est voulue de Dieu. Bon. Alors, même dans ce domaine-là, Jésus désire être au centre afin que notre sexualité soit équilibrée, qu'elle soit bien vécue. Donc, je l'aurais dit, l'équilibre ne se fait pas en faisant deux jours justes, un jour faux. Hein, l'équilibre se fait lorsque Jésus est au centre. D'accord ? L'objectif est que nous soyons ces flèches bien équilibrées, aiguisées pour servir Dieu. Et une flèche dans la cible, c'est une flèche qui fait mal dans le camp de l'ennemi. Plus tu as tant de cibles dans tes journées, plus tu gagnes en habileté, plus tu gagnes en maturité, plus tu gagnes en autorité, en force. Et tu deviens aussi plus dangereux pour l'ennemi de nos âmes. Alors dans cette série, j'aimerais donc aborder différents domaines de nos vies, j'espère que ce sera assez pratique, afin que le Saint-Esprit puisse venir rééquilibrer ce qui doit l'être, et que rien d'autre ne vienne dominer nos vies, nous détourner ou nous asservir. Alors peut-être qu'il y en a qui se disent, mais est-ce que la Bible ne dit pas que Dieu se glorifie dans mes faiblesses? Est-ce qu'il n'utilise pas aussi que je sois faible? Mais bien sûr, d'accord? Il n'a pas arrêté d'agir en vous, avec vous, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. Ça, c'est la bonne nouvelle, ça, c'est la grâce. Mais s'il y a des choses que vous savez qui vous, entre guillemets, vous fait marcher comme ça, hein, vous savez qu'il y a des trucs intérieurs, au fait, vous êtes comme ça, ben, à un moment donné, la logique, ce serait de dire, ok Seigneur, je ne vais pas rester comme ça toute ma vie, je veux que tu viennes visiter ça en moi, je veux que tu sois le centre là. Mais bien sûr, ce qui nous permet donc d'avancer de manière équilibrée, c'est ce cœur transformé, habité par le Saint-Esprit. Alors ce matin, je vais prendre une goutte d'eau, excusez-moi, je vais vous parler d'un sujet qui s'intitule l'équilibre dans la gestion des émotions. On va faire un petit peu de psychologie rapidement, je ne suis pas un grand psychologue, tout de même un petit peu. Alors, les psychologues, ils reconnaissent 6 émotions de base, d'accord ? On peut facilement les différencier parce qu'on les voit bien généralement sur les visages. C'est la peur, d'accord ? Ok ? La peur. Première émotion de base. Deuxième émotion de base, c'est la colère. Voilà. Je ne sais pas faire. Bon. Troisième émotion de base, c'est la tristesse. Voilà. C'est terrible. Et puis la quatrième émotion de base, vous ne connaissez peut-être pas, c'est le dégoût. On devrait être dégoûté du péché. Voilà. Et puis la cinquième émotion, une émotion positive, c'est la joie. Ouais, cool. Et puis la sixième émotion de base, c'est la surprise. Voilà. Et toutes les émotions sont liées à notre développement. Notre développement émotionnel, mais aussi à notre... Oh, je trouve plus le mot. Bon, c'est pas grave. Bon, donc au milieu de tout ça, il y a des émotions qu'on appelle secondaires, qui sont bien sûr liées, qui ne sont pas forcément moins importantes, mais qui sont liées en tout cas aux premières. Donc on pourrait dire la honte, le mépris, la culpabilité, la jalousie, toutes ces choses. Hein. Voilà. Si je suis dans la honte, c'est peut-être parce qu'en fait j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi, etc. Donc c'est lié à des peurs, etc. Maintenant, vous avez certainement tous remarqué que les émotions ont donc une incidence sur votre comportement, sur notre comportement. Elles influencent nos décisions et nos actions. Et puis la majorité d'entre elles sont des émotions, vous le voyez là, qui sont connotées négativement. Donc c'est tellement important, crucial, que nous vivions nos émotions de manière équilibrée. C'est-à-dire que Jésus soit présent dans notre vie émotionnelle. Il est aussi intéressant de réaliser que la chute originelle, en fait, à Éden, a aussi affecté, hein, par l'apparition, par la venue du péché, ça a affecté notre vie émotionnelle. Ça a affecté le psychologique. Hein. On est fait corps, âme et esprit, vous êtes d'accord ? D'accord, donc le corps, eh ben, c'est tout ce qui est du physique, l'âme, c'est tout ce qui est du psychologique, et puis l'esprit, c'est tout ce qui est lié au spirituel. D'accord ? Donc la chute a eu des incidences dans ces trois aspects de nous-mêmes. Vous connaissez bien ce passage dans Genèse 25 où il est dit « L'homme et la femme étaient tous deux nus sans en éprouver aucune honte ». Ah, magnifique, il y en a qui rêvent de ça. On se promenait tout nu, puis ça va, il n'y a pas de honte. Ça, ils ne pouvaient pas éprouver la honte, en fait. Et puis, en Genèse 3, on voit un petit changement, on peut lire ensemble, 7 à 12. Aussitôt, donc après avoir goûté ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de tous deux s'ouvrirent et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Alors ils se firent des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. Au moment de la brise du soir, ils entendirent l'Éternel parcourant le jardin. Alors l'homme et sa femme se cachèrent de l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui demanda « Où es-tu ? » Celui-ci répondit « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Adam répondit « C'est la femme que tu as placée auprès de moi qui m'a donné du fruit de cet arbre et j'en ai mangé. » Bon, c'est la partie préférée, hein. Mais en fait, on voit que dans ce texte-là, il y a un cocktail d'émotions. Franchement, il y a la honte, il y a la peur, il y a de la culpabilité, au point que Adam va vouloir se cacher, et puis il cherche même à mettre la faute sur Ève. Il ne prend pas ses responsabilités. Avant, ils n'avaient pas honte d'être nus, et puis suite à la chute, la honte est là. On pourrait aussi mentionner la colère de Caïn au chapitre 4 de la Genèse qui l'a amené à tuer son frère Abel. En fait, dans le ciel, nous vivrons dans la joie. Pas de tristesse, il n'y aura plus de larmes. Pas de tristesse, pas de colère, pas de peur, pas de culpabilité, tout ça sera fini. Mais sur la terre, nous avons ces émotions en lien avec ce que nous vivons et qui est effectivement, ce que nous vivons est affecté d'une manière ou d'une autre par le péché. Alors ce matin, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est que Jésus lui-même a éprouvé des émotions à différents moments. Jésus, fils de Dieu, eh ben, il n'est pas resté de marbre. Hein, des fois, on se dirait, ben, quand même, il doit être au-dessus de tout ça. Ben, pas du tout. Il n'avait pas une attitude du style « je sais tout, je maîtrise tout, il n'y a rien qui peut m'atteindre ». Non, il a eu plein d'émotions. Et on va regarder quelques-unes ensemble ce matin. Vous êtes toujours là ? Super. Les émotions de Jésus, donc, la première qu'on peut voir, c'est la tristesse. Il a été triste, il a dit à Pierre, à Jacques, à Jean, la veille de sa crucifixion, « Mon âme est triste à mourir. » Et comme je l'ai dit, l'âme, c'est l'être intérieur. Et il reconnaît être triste à en mourir. Finalement, dans le contexte dans lequel il est, hein, qu'il a conduit là, dans ce jardin, bah, tout ça, ça, d'un coup, ça le rend triste. Il a été trahi, nombreux sont ceux qui ne l'ont pas reconnu, et il sait qu'il va être maltraité, mis à mort injustement. Il y a une tristesse qui est là. Et puis en Jean 11, 34, on voit aussi Jésus pleurer la mort de Lazare. Et puis il a aussi pleuré sur la ville de Jérusalem, en Luc 19. Jésus a pleuré, il était triste. Et dans ce même contexte de la nuit précédant la crucifixion, eh ben, il a aussi eu peur, il y a eu de l'angoisse. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Quand même, Jésus, il savait depuis le début qu'il allait aller là. Il était venu pour ça, mais il a peur, il est triste. Puis quand même, est-ce que c'est ça l'image du Jésus fort, du masculin qu'on a tellement décrit comme étant cet homme qui ne se laisse pas bousculer, on aurait des fois envie d'avoir ce Jésus qui imperturbable. D'ailleurs, ça fait vraiment un parallèle très fort avec l'idée des faux dieux, des dieux grecs qui étaient des justement des dieux impassibles, hein, qui n'avaient aucune émotion. Mais non, lui, il a ces émotions-là. Il a peur, il est saisi d'angoisse. Et puis, un texte qu'on cite volontiers aussi, parfois pour expliquer un petit peu nos réactions, ben, Jésus, il a aussi eu de la colère. Donc ce texte, vous le connaissez bien, je le lis rapidement, Matthieu 21, 12. Jésus entra dans la cour du temple, il en chassa tous les marchands, ainsi que leurs clients, il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons, et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc là, quand même, Jésus, il est bien fâché, et puis, on le voit, il chasse les gens, il retourne ses tables. C'est de la colère. Et ensuite, on voit aussi qu'il est indigné, il est en colère, même triste à la fois, en constatant le cœur dur des pharisiens, qui par exemple, vont lui reprocher de guérir le jour du sabbat. J'ai pas mis le texte, non. Il est dit, c'est en Marc 3, 5, « Alors il promena sur eux un regard de colère, profondément attristé par la dureté de leur cœur. » Là, il parle de ces pharisiens qui étaient là pour le piéger le jour du sabbat parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait une guérison le jour du sabbat. Hein. Il était en colère, un regard de colère. Et puis, bien sûr, alléluia, Jésus a eu l'occasion aussi d'éprouver de la joie sur la terre. Yes. Et au retour de mission du groupe élargi des disciples, ça, je suis revenu en arrière, voilà. Et bien, il est dit, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Il a exulté de joie, il était dans la joie. À de nombreuses reprises aussi, il a été ému de compassion, une émotion forte hein, que j'ai déjà plusieurs fois partagée, parce qu'elle est même centrale, je pense, dans la vie de Jésus, dans les évangiles, dans sa manière de se comporter avec les gens. Donc cette émotion, être ému de compassion, c'est vraiment être, pour parler un peu de chez nous, c'est être rebouillé dans ses entrailles. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de profond qui vient là. Voilà, donc c'est vraiment être touché, saisi aux entrailles. Il est ému de compassion lorsqu'il voit, par exemple, je l'ai mis, la foule. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, une foule sans berger. Il a été ému de compassion lorsqu'il a vu la foule qui était là, qui le suivait, puis après 3 jours, ils n'avaient pas mangé. Il était ému de compassion. Il était ému de compassion à la sortie de Jéricho lorsqu'il croisa 2 aveugles. Il était là aussi, ému de compassion, et il y en a d'autres. Alors ce matin, j'aimerais vous proposer 3 étapes, suite à ce qu'on a lu là, en se basant sur ce modèle de Jésus, pour vivre de manière équilibrée nos émotions. En tant que chrétien, on entend parfois, nous ne devrions pas être tristes. Pas être triste. On a la joie du Seigneur. Il ne faudrait pas être triste. On ne devrait pas non plus avoir peur, mais toujours en paix. Il nous donne sa paix, alors pourquoi on a peur, franchement? Et puis, il ne faudrait pas se mettre en colère, hein, parce que là, on est quand même appelé à aimer son prochain, donc non, pas la colère, ça ne va pas, il faut se maîtriser. Tout ça, c'est mauvais, c'est négatif. Mais, en voyant ce que Jésus a vécu, on réalise que nos émotions, ben, en fait, elles sont normales. Elles font partie de nous. Et il est au contraire important de les accepter. Elles font tellement partie de nous que notre cerveau, il sécrète des hormones aussi qui suscitent cette émotion-là. Hein, donc il y a toute une partie chimique dans laquelle je ne rentre pas maintenant. Mais ça fait partie de nous. Donc la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est les accepter. J'ai le droit de ressentir cette émotion. J'ai le droit. Même dans l'Église, j'ai le droit d'être triste. Hein, voilà. Et peut-être qu'il faut le dire, il faut le redire. Peut-être c'est plus difficile pour les messieurs, hein, souvent, mais pas que. Des fois, les messieurs, ils ont plus de peine à accepter ça. Quelqu'un me disait, il y a la colère est peut-être l'émotion que les hommes se permettent d'avoir, mais les autres émotions, pas tellement. C'est rigolo, hein? C'est comme si la colère est une émotion plus masculine que les autres. Bon, non. Oubliez ça. J'ai le droit de ressentir cette émotion. J'ai le droit d'être triste face à ce que je viens de voir ou ce que je viens de traverser. Même si une émotion peut être connotée négativement, eh ben, elle n'est pas mauvaise en soi. Et on peut la valider à l'intérieur de nous-mêmes. Mais l'équilibre dans la gestion de ces émotions, de mes émotions, commence donc par accepter que j'ai telle ou telle émotion et puis que c'est OK comme ça. OK ? Première chose, c'est accepter. Deuxième étape, voilà, c'est les exprimer. Jésus a plusieurs fois exprimé ses émotions, comme on vient de le voir. Il a dit « Je suis triste, j'ai peur ». Il n'a pas juste gardé pour lui, il l'a même dit à ses disciples, alors qu'il est, figure de modèle, alors qu'il est le maître. Il a dit « J'ai peur, je suis angoissé ou je suis triste ». Et exprimer, c'est libérateur pour nous permettre d'avancer. Et lorsque, dans le contexte dans lequel nous grandissons, nous sommes, ça peut être la culture familiale, hein, mais ça peut être juste le contexte ambiant, si ce contexte-là ne nous permet pas d'exprimer nos émotions, ou que nous ne nous en donnons pas le droit nous-mêmes, ben, il va manquer quelque chose, même dans notre compréhension de nous-mêmes, dans notre compréhension du développement de qui nous sommes. Ça, c'est important de le saisir, parce qu'en fait, on aura des comportements qui sont en fait liés à une émotion, mais on n'arrivera pas à faire le lien. On ne comprendra pas qu'est-ce qui est derrière vraiment, parce qu'on n'aura jamais osé dire, osé mettre le nom dessus. Alors, lorsqu'on apprend à exprimer nos émotions, ça ressemble un peu à ça. Ben, en fait, si je cause pas là maintenant, c'est parce qu'en réalité, je suis triste. Je suis triste face à cette situation. Puis là, ça fait que je parle pas. Mais c'est pas que je suis quelqu'un qui parle jamais, hein, chérie. C'est pas que je veux pas parler, mais en fait, au fond de moi, si vraiment je m'écoute, si je comprends ce que je suis en train de vivre, je suis triste. Par exemple. Ou bien, si j'ai rien envie de faire. C'est parce que, en fait, je suis en colère. Il y a quelque chose en moi qui est en colère. Et puis, je n'ai rien envie d'entreprendre. Voilà. Si je suis agressif ce soir, ben, c'est qu'au fond de moi, j'ai peur. J'ai peur de demain. Et puis, ça se traduit par de l'agressivité. Et d'ailleurs, pour ma part, hier soir encore, j'étais un peu stressé pour aujourd'hui, pour ce matin. Et puis, j'ai dit à ma femme, « Ouais, mais en fait, c'est de la peur. » Voilà, je lui ai dit, et ça m'a rendu à quelque part vulnérable. J'ai peur, puis elle dit, bon, ben, t'as peur, mais d'habitude, ça se passe plutôt bien. Et j'avais une peur. Puis la question, c'est pas de savoir pourquoi à ce moment-là, c'est juste de pouvoir accueillir cette émotion. Ben oui, j'ai peur, j'accepte, et puis j'ai pu l'exprimer, et on a pu ensuite, déjà rien que de le dire, ça m'a aidé, puis ensuite on a juste pu prier. Et puis j'ai compris pourquoi en priant, j'avais ça. Puis ensuite, j'étais en paix. Ça, c'est justement la troisième étape. Après avoir accepté, exprimé, il y a l'étape de la réponse. Autrement dit, il recommence chaque fois. Troisième, là, j'ai mis y répondre. C'est pas très joli, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'en fais de cette émotion-là? Comment elle va quelle est la réponse à donner? Et ça, c'est le point vraiment clé pour nous aujourd'hui. Parce que on a besoin de répondre sainement, finalement, pour vivre nos émotions avec équilibre. C'est vraiment crucial. Quelle réponse je donne? Quelle place? Quelle action? Quel comportement va suivre mon émotion? Et là, je vous donne encore un petit truc mémotechnique, peut-être, qu'on m'avait donné un jour. C'est émotion, c'est E comme énergie, et motion en anglais, ça veut dire, ceux qui parlent anglais, mouvement, voilà. C'est de l'énergie en mouvement. Une émotion, c'est de l'énergie qui a besoin d'une réponse, qui va exiger un mouvement, en fait, une action. Donc, par ma réponse, je peux facilement déséquilibrer ma flèche. Je peux sortir Jésus du centre de mon cœur. Quelques exemples, si je prends la tristesse, je peux pleurer et ne plus m'arrêter. Je peux me lamenter sur ma situation. Je peux ne parler plus que de ça. Je peux porter le poids de ma situation sur moi et même en devenir malade, en devenir dépressive. Il y en a qui développent des maladies tellement, en fait, à l'intérieur, il y a une tristesse profonde. Je peux rester là. Ça peut être ma réponse, de rester dans cette tristesse-là. La peur pourrait me paralyser. Alors je ne fais plus rien, j'ai peur de tout, je ne fais plus rien. Puis ça, c'est ma réponse. Je ne prends plus aucun risque. Puis je deviens même méfiant. Et puis voilà, parce que finalement, il y a tout qui peut faire peur. La colère pourrait sortir par des gestes, bien sûr, irréparables, par des paroles blessantes. La colère pourrait faire de moi quelqu'un vraiment d'agressif et me couper de mes relations. Et puis finalement, peut-être faire de moi quelqu'un d'aigri. La réponse à la joie pourrait être d'aller faire la fête, alléluia, mais avec des excès en tout genre. Ça pourrait être la réponse de la joie. Ému, je pourrais aussi, ému de compassion, hein, je pourrais rester dans une sorte de pitié stérile. Oh, le pauvre, le pauvre. Et puis rien en faire. Et puis après, je vais dire à mes copains, à mes proches, oh, alors lorsque j'ai vu ça, hein, je ne te dis pas, mais j'ai été touché. Hein, j'ai touché. Ok, ça c'est ma réponse. Mais on peut aussi répondre en gardant Jésus au centre, répondre de manière équilibrée afin que ce domaine de ma vie soit vécu sainement. Et si on revient à la réponse que Jésus a donnée à ses émotions, on voit que face à sa tristesse au jardin, lui-même, juste après, il va prier le Père et puis il va dire « Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Ça, c'était la réponse de Jésus. Face à ma propre tristesse, je peux la lui confier. Il est bon de pleurer, et bien souvent c'est même le début de la guérison, hein, mais je suis triste, mais tu es le consolateur. Cette situation me touche, me rend triste, mais je te confie cette situation, que ta volonté s'accomplisse. Ça peut être une réponse à ma tristesse. Face aux angoisses et à la peur, Jésus dit à ses disciples, restez ici et veillez avec moi. Hein, il veut les faire prier, il a besoin en fait du soutien aussi. De ses disciples, et puis vous connaissez l'histoire, ils vont s'endormir à trois reprises. Et puis, comme je l'ai expérimenté, prier avec une personne, faire face à nos peurs, confronter nos peurs aussi avec Jésus, ben, c'est tellement important, c'est libérateur. Parce que les peurs sont un domaine tellement complexe, on pourrait prendre beaucoup de temps pour parler juste des peurs. Il y a des peurs normales face à un danger, mais il y a des peurs profondes, comme la peur du rejet, par exemple. La réponse au rejet, par exemple, serait de s'exclure soi-même. Mais nos peurs peuvent facilement nous déséquilibrer. Elles peuvent nous faire prendre beaucoup de mauvaises directions. Mais si vous ne savez même pas la raison de votre peur, vous pouvez juste oser venir à Jésus, lui demander de vous restaurer, apaiser, donner sa paix. Face à la colère, Jésus pose une action forte, mais une action juste. Il a agi là aussi selon la volonté du Père, qui n'est pas d'accord avec cette situation. Et la colère est un très bon exemple de l'importance de cette réponse. Parce que, d'ailleurs, comme Paul le dit aux Éphésiens, vous connaissez aussi ce passage, Éphésiens 4, 26, 27, il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne laissez aucune place au diable. » Ça, c'est très clair. La colère, ici, elle n'est pas condamnée, mais il y a une interpellation sur la réponse. Ne péchez pas. Hein. Qu'est-ce que tu en fais de ta colère ? Ne pêche pas, ne loupe pas la cible. Parce que notre réponse a le potentiel de laisser la place au diable. Demandons que notre réponse soit juste, soit proportionnelle à la gravité de la situation. Que notre réponse produise un changement durable. Et qu'elle ne blesse pas à son tour. Hein. Parce que des fois, c'est ça, on est bon pour se blesser mutuellement. En fait, la personne répond émotionnellement à quelque chose qu'on a, par exemple, dit ou fait, puis nous, on répond encore plus fort, puis en fait, on commence à se blesser comme ça. Non. Quelle est la réponse où Jésus en est le centre ? Face à la joie encore, Jésus commence à prier en disant « Je te suis reconnaissant, Père ». Juste après ça, il dit « Je te suis reconnaissant, Père ». De même pour nous, dans la joie, je peux profiter de sauter, de chanter, de louer Dieu, de remercier. Osez exprimer ça aussi avec tout votre corps. C'est une manière de répondre à la joie. Et puis, ému de compassion, Jésus, il a posé une action. Quand il a vu cette foule sans berger, il est venu, il leur a enseigné. Lorsqu'il a vu la foule qui avait faim, il y a eu la multiplication des pains. Lorsqu'il a vu ces deux aveugles, il les a guéris. Ému de compassion, il a posé une action concrète. Et ça aussi, lorsque je suis touché au fond de moi par une situation, que ce soit de pauvreté, une situation de détresse, je peux poser une action concrète pour bénir, pour soulager, aimer comme Jésus. C'est encore là ? Je termine. Alors, la question pour ce matin est, quelle est la réponse à mes émotions ? Quelle action est-ce que je pose ? Point d'interrogation. Quelle réaction ou comportement me caractérise aujourd'hui en lien à ces émotions ? Est-ce que je me laisse dominer, submerger, dépasser par ma colère, ma tristesse ou mes peurs ? Ou est-ce que j'y réponds consciemment ? Ou est-ce que je laisse sortir comme ça sort ? Est-ce que je reste dans la honte ou la culpabilité au point de les laisser me définir ? De ne désirer plus rien dans ma vie, si ce n'est d'être seul, caché, un petit peu comme Adam qui voulait juste se cacher. J'ai eu des personnes qui m'ont dit, ma foi, je vis mes émotions, et quand ça sort, ça vient comme ça vient. C'est très bien de les vivre, mais nous avons la responsabilité de la réponse. Nous avons la responsabilité de mettre Jésus au centre de nos actions, réactions, comportements. Et donc le laisser visiter nos émotions, parce qu'il va nous permettre de répondre avec équilibre. Le modèle de Jésus nous montre que ses émotions étaient humaines. Il a partagé les mêmes que nous. Par contre, ce qu'il en a fait était divin. Ses actions poursuivaient sa cible, apporter le salut, la délivrance, aimer sans condition. Il n'a pas été déséquilibré par ses émotions, il en a fait quelque chose de bon. Amen. Alors c'est ma prière pour nous ce matin. J'aimerais juste terminer en vous demandant de vous lever et que ensemble nous puissions demander au Saint-Esprit de venir visiter ce domaine des émotions. Peut-être pour certains c'est nouveau de pouvoir exprimer ces émotions, peut-être vous êtes en train de découvrir ça. Demandez au Saint-Esprit de vous donner cet équilibre. Qu'il vous donne la grâce de vivre vos émotions selon sa volonté. Que nous ne soyons pas dirigés par nos émotions, soumis à ce que nous pouvons ressentir, mais bien dirigés par Jésus, afin d'atteindre la bonne cible. Je prie aussi ce matin que chacun soit libre de les accepter, libre de les exprimer, puis vraiment conduit pour y donner suite. Père, tu nous as créés. Tu es le Dieu créateur, tu nous as créés aussi avec cette réalité des émotions. Seigneur, on reconnaît bien notre difficulté à les appréhender, à les gérer. Et Seigneur, on croit, on comprend ce matin que pour atteindre la cible que tu as pour nous, tu désires aussi que nous soyons équilibrés dans notre manière de vivre nos émotions. Ce n'est pas seulement la réponse, c'est déjà de les accepter, c'est déjà de les exprimer et d'y répondre avec toi. Saint-Esprit, je prie pour toutes les personnes qui ont grandi dans un milieu où il n'était pas possible d'avoir des émotions, qui ont été comme blindées. Seigneur, je prie que tu fasses tomber, que tu perces, Saint-Esprit, ce blindage-là, afin qu'ils puissent découvrir que oui, ils ont des émotions, que oui, tu as mis ça dans leur cœur et que c'est bon, que c'est ok, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour tous ceux qui savent très bien que selon les émotions qu'ils vivent, ben leur réponse est trop violente. Seigneur, je prie que tu viennes visiter cela, que tu viennes simplement leur dire « je veux faire avec toi, je veux être là avec toi dans cette réponse-là. » Jésus. Seigneur, je prie que beaucoup puissent choisir d'exprimer ces émotions ce matin, qui sont là, exprimés à quelqu'un de confiance, exprimés à conjoint, et que ce soit pas, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'on puisse vraiment s'ouvrir, dire la vérité de fond de notre cœur. Que ce soit vrai dans l'Église aussi, Seigneur Jésus, garde-nous de montrer quelques des, ouais, comme si on est toujours parfait, toujours bien, on sait que ce n'est pas vrai, Seigneur. Alors on prie que là aussi, dans ce lieu, les uns les autres puissent dire les vraies émotions qui sont les leurs, qu'elles soient accueillies, que ces personnes se sentent aimées, qu'ensemble on puisse venir près de toi. Saint-Esprit, fais ton œuvre maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. On te donne toute la gloire, on te donne toute la place.
Dans le nom de Jésus, amen. Amen. Que tous ceux qui doivent exulter de joie le fassent, que tous ceux qui doivent pleurer pleurent. On est ensemble. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons maintenant entrer dans un temps de sainte cène, tout en continuant à réfléchir à ces trois points dans la gestion de nos émotions, à savoir les accepter, les exprimer et y répondre. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 11, 24 à 26. Je répète, 1 Corinthiens 11, 24 à 26. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et